Il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue. RFI vous informe et vous donne la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité. Et dans 40 minutes, notre débat du jour. Au Mali, se dirige-t-on vers une présidence à vie pour le général Goïta? Vos réactions nous intéressent. Mais d'abord, le journal international. Bonjour, Diane Berger.
Bonjour, Juan. Bonjour à toutes et tous. À la une de l'actualité, le cinquième jour des affrontements entre Israël et l'Iran. Téhéran affirme avoir détruit des cibles stratégiques sur le territoire israélien. L'armée de l'État hébreu annonce quant à elle avoir tué un important commandant militaire. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, appelle lui la population iranienne à se rebeller contre le régime. Mais c'est un message difficilement audible pour les civils effrayés par les bombardements. Nous reviendrons également dans ce journal sur les coupes budgétaires drastiques dans l'aide humanitaire. Les Nations Unies confirment que des dizaines de millions de personnes vont être privées de soutien en 2025. Et puis 4 ONG Touareg portent plainte à la CPI, la Cour pénale internationale, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle dénonce des violences commises notamment par Africa Corps ex-Wagner. L'armée israélienne affirme ce matin avoir tué le plus haut gradé de l'armée iranienne, Ali Shadmani, un proche de l'ayatollah Khamenei. Nous sommes au cinquième jour de la confrontation militaire entre Israël et l'Iran. Les deux pays s'échangent des pluies de missiles depuis vendredi et depuis donc le début de l'offensive israélienne contre son ennemi juré, Téhéran, soupçonné d'être sur le point de fabriquer la bombe atomique. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé hier être en train de changer la face du Moyen-Orient. Il appelle aussi les Iraniens à se lever contre le régime au pouvoir à Téhéran. Un discours qui suscite des sentiments complexes chez certains Iraniens qui s'opposent à leurs propres dirigeants mais qui pour autant s'estiment victimes de l'attaque israélienne. Nicolas Falaise a pu recueillir le témoignage d'une habitante de Téhéran dont la voix a été modifiée à sa demande.
Même si ces dernières années, elle a manifesté contre le pouvoir en Iran, cette habitante de Téhéran s'estime aujourd'hui victime de l'attaque israélienne.
C'est un sentiment très compliqué. Aucun Iranien ne veut être attaqué. Et nous voyons ce qu'Israël fait dans le monde. Et nous en faisons partie. Nous nous sentons attaqués. Nous ne nous sentons pas en sécurité. Nous nous sentons agressés.
Pour l'instant, cette Iranienne préfère rester à Téhéran, d'où elle nous raconte le bruit des explosions et les rues de plus en plus vides. Elle en veut aussi aux dirigeants de son pays pour cet embrasement soudain.
La République islamique a provoqué Israël pendant des années et ils sont largement responsables des conséquences. Ils ne se sont pas souciés du bien-être des citoyens iraniens. Ils ne se sont pas souciés de nous protéger.
Cette Iranienne le reconnaît. Elle s'est réjouie de la mort de plusieurs hauts gradés de l'appareil sécuritaire iranien qu'elle juge responsable de la répression dans son pays.
Le bilan de ce conflit est de plus de 220 morts en Iran, au moins 24 morts côté israélien. Israël où plusieurs explosions ont retenti tôt ce mardi matin, notamment à Tel Aviv et à Jérusalem. Téhéran affirme de son côté avoir détruit donc des cibles stratégiques à l'aide de drones. Les dirigeants du G7 soutiennent le droit d'Israël à se défendre dans un communiqué commun publié ce lundi soir au Canada. Depuis le sommet des principales puissances du monde, ils dénoncent aussi l'Iran comme principale source, je les cite, d'instabilité et de terrorisme dans la région. Ils appellent également à la protection des civils. Le président américain Donald Trump était présent au sommet du G7, mais il est parti un jour plus tôt que prévu. La porte-parole de la Maison-Blanche avait d'abord expliqué que c'était lié à la situation au Moyen-Orient. Le dirigeant Jean rétorque finalement que son retour n'a rien à voir avec un éventuel cessez-le-feu Iran-Israël. Tandis qu'un nouveau front s'ouvre donc avec l'Iran, Israël est toujours en guerre contre le Hamas à Gaza. Dans le territoire palestinien, justement, cette nouvelle scène de violence près d'un centre d'aide, 47 personnes ont été tuées par des tirs israéliens selon la défense civile de l'enclave. Ce genre d'événement meurtrier se multiplie depuis la reprise en main des distributions de nourriture par la GHF, une fondation soutenue par Israël et les États-Unis. Les milieux humanitaires alertent depuis des mois. On mesure maintenant plus précisément les dégâts. Selon l'ONU, des dizaines de millions de personnes vont être privées de l'aide dont elles ont besoin pour survivre en 2025. En effet, sur les 44 milliards de dollars prévus pour l'année en cours, seuls 5 milliards 600 millions ont été versés, 13% seulement du nécessaire. C'est en raison notamment de la fin de l'aide américaine au développement, mais pas seulement. Jens Lerck, porte-parole de l'OCHA, l'agence de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, le souligne, les pays européens donnent également de moins en moins.
Bien sûr, la décision de l'administration américaine a été un coup très dur. En raison de la taille de leur économie, les États-Unis jouent un rôle majeur. Plus de 40% des fonds que nous recevons proviennent de Washington. Mais d'autres donateurs très importants, européens en particulier, ont également décidé de baisser leur financement. Nous comprenons que les gouvernements aujourd'hui sont soumis à des pressions financières et qu'ils doivent faire du mieux possible pour leurs citoyens avec l'argent qu'ils ont collecté. Mais pourquoi les plus vulnérables dans le monde devraient-ils être les premiers à en souffrir? Cette aide ne représente pas tant d'argent que cela au regard des budgets de ces grands pays. Alors bien sûr, nous continuerons à nous battre pour les personnes les plus vulnérables, celles qui sont au bord de la famine, celles qui fuient la guerre et les catastrophes naturelles. Nous pensons que c'est la bonne chose à faire et nous espérons que les gouvernements et les autres donateurs nous écouteront.
Pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, c'est l'une des pires attaques de Moscou de ces derniers mois. Des frappes russes ont touché plusieurs districts de la capitale, Kiev, dans la nuit de ce lundi à mardi. Des frappes qui ont fait au moins 14 morts. Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne déplore quant à lui l'absence de réaction adéquate, je le cite, de la part du monde civilisé. Ce n'est pas la Russie qui est directement visée par cette nouvelle procédure à la CPI, la Cour pénale internationale, mais un groupe paramilitaire proche du pouvoir, Africa Corps, successeur de la milice Wagner, au cœur d'un signalement de 4 ONG de la communauté Touareg, Imouag International, Kelakal, Diaspora des États-Unis et l'Association de solidarité avec l'Azawad, ont adressé dimanche un signalement au procureur de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Mali et au Burkina Faso. Cela par les forces armées et par le groupe russe dans le cadre de la répression et de la guerre contre le terrorisme. Stéphanie Maupa.
Difficile de connaître le sort qui sera réservé à ces accusations. La communication déposée par les quatre ONG n'enclenche aucune obligation légale pour le procureur de la CPI, mais les éléments consacrés aux crimes commis au Mali entre 2022 et 2025 pourraient venir compléter le dossier des enquêteurs, car une enquête est déjà ouverte depuis que le gouvernement malien s'était tourné vers la Cour en juillet 2012 lors de l'occupation djihadiste de Tombouctou et du nord du pays. Le bureau du procureur est donc censé enquêter sur les crimes commis au Mali depuis cette date. Reste que le départ des forces françaises et de l'ONU en 2022 et 2024 ont rendu très difficiles les opérations de la CPI sur le terrain. Pour le Burkina Faso, dont les forces armées sont accusées par les quatre ONG de disparition forcée et de meurtre, la Cour n'a aucune enquête en cours. Si le procureur devait décider d'enquêter, il lui faudra obtenir au préalable l'aval des juges, à moins que le gouvernement ne décide de le saisir, ce qui paraît bien peu probable au regard des accusations. Stéphanie Mopala et RFI.
En France maintenant, il faut que le conclave se termine ce soir. C'est en tout cas l'avis de Marilyn Léon, la chef de la CFDT, l'un des principaux syndicats français, pressée d'en finir avec cette série de réunions sur l'épineuse question des retraites. Le Premier ministre François Bayrou s'est dit prêt hier à accorder un délai supplémentaire pour que les participants trouvent un accord. Mais après 5 mois de débat, la plupart des syndicats veulent voir la fin du processus. C'est le cas de la CFTC, qui tient tout de même que certaines avancées, notamment sur la retraite des femmes. Écoutons Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC en charge de la négociation.
Aujourd'hui, si vous n'avez pas tous vos trimestres de cotiser parce que vous avez eu un enfant, vous avez pris un congé maternité, vous avez une période de chômage, eh bien, on vous donne quand même une retraite pleine et entière. Mais il faut aller jusqu'à 67 ans, même si l'âge légal est à 64 ans. Et on s'est aperçu que, principalement, c'était des femmes qui étaient touchées. On a demandé à ce que la décote soit rabaissée d'un an, que ce soit 66 ans et non pas 67. Et pour nous, c'est une ligne rouge. Si nous n'arrivons pas obtenir cette baisse de décote, voilà, le texte, pour nous, on ne pourra pas le valider. Je pense que ce conclave-là ne va pas recontinuer après derrière, mais d'ici 2026, on demande à ce qu'on nous laisse la main sur le régime général de retraite à gérer et à piloter pour remettre les choses d'équerre. Nous, on souhaite travailler sur du long terme.
Pascal Coton de la CFTC, interrogé par Agnieszka Kumor. Il est quasiment 8h10 en temps universel. C'est l'heure de retrouver Juan Gomez.
Pour 10h10. Rappel,
10h10 à Paris.
Oui, c'est bien ça. Merci Diane Berger. Très bonne journée. On marque une pause.